VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 18 janvier. À la une ce soir.
Ouagadougou, toujours sous le choc après l'attaque terroriste de vendredi dernier. Sur place, Yayi Boni, le président béninois, promet une riposte régionale aux djihadistes.
Frapper, en fait, ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé. C'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras.
Germain Katanga a purgé sa peine à la CPI, mais Kinshasa envisage des poursuites contre l'ex-chef de milice congolais.
Et nous vous emmènerons en RCA, la rencontre des pygmées Bayaka de Belem Boké.
Tu peux prendre une personne pour débroussailler quelque endroit, et souvent c'est 500 francs. Mais si c'est un peuple autochtone, on le donne 250.
Vaste opération de recherche en Irak suite à la disparition de 3 Américains.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Retour sur les attaques djihadistes qui ont fait 29 morts vendredi à Ouagadougou. L'enquête se poursuit notamment sur les lieux du drame. 18 enquêteurs français, dont des magistrats et des membres de la police scientifique, étaient sur place ce lundi pour épauler les Burkinabés. Parmi les victimes, on compte au moins 14 étrangers, dont un enfant de 9 ans. Au moins 7 Burkinabés sont morts. Les bilans divergent et 7 corps doivent encore être identifiés. Sécurité renforcée à Ouagadougou, notamment aux abords des hôtels. L'armée est déployée dans la capitale. Des barricades ont été installées aux entrées et sorties des principales villes du pays. Les drapeaux sont en berne après un deuil national de 3 jours décrété suite à l'attaque du commando djihadiste. Le président béninois Thomas Boni Yayi s'est rendu ce lundi à Ouagadougou pour témoigner de la solidarité des pays d'Afrique de l'Ouest après l'attaque meurtrière du week-end. Il a promis une riposte régionale aux violences des djihadistes.
Frappé, en fait, ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé. C'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter. Donc, sur cette base-là, à une session extraordinaire, nous aurons l'occasion d'ouvrir, disons, les débats pour passer directement aux actions. Nous aurons besoin, certainement, de mettre en place des structures en place et que les points focaux sensibles, les hôtels, etc., soient mieux gardés, que nous puissions mutualiser nos ressources au sein de nos sous-régions et pour que nous puissions en finir avec l'insécurité. Parce que aujourd'hui, la question est à qui le tour. Et je vais terminer pour dire en réalité que ce problème-là relève aussi de la compétence de la communauté internationale. Et du point de vue, je crois, nous avons apprécié le programme d'action du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a mis au fronton de ses priorités la question de la gestion de nos États pour faire face à la violence terroriste.
Le président béninois, Thomas Boni Yayi, propos recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Explosion dans le sud-est du Niger. Un véhicule de l'armée a sauté sur une mine samedi dans la région d'Ifa. Au moins 6 militaires ont été tués. Les autorités disent ne pas avoir un bilan exact. Les djihadistes de Boko Haram sont actifs dans cette zone frontalière du Nigeria. Par ailleurs, 4 fidèles ont été tués ce matin au Cameroun dans un attentat suicide contre une mosquée de l'extrême nord, 5 jours après une attaque similaire qui avait fait 12 morts dans une autre mosquée de la région. L'attentat a visé une petite mosquée du village de Ngechewe, dans une région cible régulière d'attaque des islamistes nigérians de Boko Haram, dont les bastions sont situés de l'autre côté de la frontière.
Crise au Burundi. Le dialogue inter-burundais doit débuter demain à Kirundo, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'indique la Commission nationale du dialogue inter-burundais, créée en septembre par le gouvernement. Parmi les questions prévues par les autorités, pourquoi les élections sont-elles toujours suivies de violences au Burundi ? Ou encore, comment consolider la démocratie au Burundi ? Ce premier débat doit réunir quelques 400 délégués des confessions religieuses, des partis politiques, de la société civile, des jeunes, des femmes, de l'armée et de la police. Mais l'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas.
Kinshasa a annoncé des poursuites contre l'ancien chef de guerre Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale, dans le but de donner l'exemple des efforts des autorités congolaises pour lutter contre l'impunité en RDC. Salwa Jafari.
Katanga a été transféré à Kinshasa en décembre. Il aurait dû être la première personne condamnée par la CPI à sortir de prison après avoir purgé sa peine. Mais il reste impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves, selon le ministre de la Justice congolais. Deux procédures sont en cours contre lui, dont une pour l'assassinat de 9 casques bleus. Surnommé Simba pour sa férocité lorsqu'il était à la tête de sa milice, Katanga a été condamné principalement pour sa complicité dans l'attaque d'un village ayant fait environ 200 morts en 2003. Depuis 2014, les autorités congolaises ont pris le problème de l'impunité à bras-le-corps. Plusieurs officiers supérieurs, généraux et anciens chefs rebelles ont été condamnés par la justice congolaise pour divers crimes de guerre.
Au Gabon, le ministère de l'Intérieur a débuté aujourd'hui les opérations de révision des listes électorales. Cette activité qui sera clôturée le 2 mars doit également toucher les Gabonais de la diaspora. Des élections présidentielles et législatives auront lieu au second semestre 2016. On fait le point avec Eric Manirakiza.
Cette révision des listes devra dégager le fichier électoral définitif des électeurs pour élire le nouveau président du Gabon, mais aussi remplacer le Parlement actuel. L'enjeu majeur de ces deux scrutins reste la présidentielle, dont l'opposition s'efforce à dissiper les divergences pour désigner un candidat unique. Le front de l'opposition pour l'alternance, FOPA, a choisi vendredi Jinping pour affronter le président sortant Ali Bongo Ondimba, élu en 2009 après le décès de son père, Omar Bongo Ondimba. Néanmoins, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine n'a pas requis l'unanimité de toute l'alliance. Plusieurs dirigeants de la coalition n'ont pas approuvé la procédure qui a abouti à la désignation de M. Ping. Selon la constitution gabonaise, le président est élu dès le premier tour par une majorité simple. Si l'opposition reste émiettée, ne ferait qu'augmenter les chances à Ali Bongo Ondimba pour un nouveau septennat.
L'ambassadeur du Gabon devait être reçu aujourd'hui à Matignon. Il s'agit pour la France de dissiper tout malentendu entre Paris et Libreville. Samedi, le Premier ministre français Manuel Valls a indiqué que le président gabonais Ali Bongo Ondimba n'avait pas été légitimement élu. Mais aujourd'hui, le temps est différent. La France est très attachée à ses relations avec le Gabon sous la conduite du président Bongo, élu en 2009, a insisté le Quai d'Orsay.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État John Kerry a affirmé aujourd'hui à la chaîne CNN qu'il n'y a aucun lien entre la libération des détenus américains en Iran et la levée des sanctions imposées à Téhéran par Washington. Les deux événements sont intervenus samedi. Selon le chef de la diplomatie américaine, cette libération devait avoir lieu depuis 2 mois, mais des obstacles se sont dressés. Il a fallu négocier jusqu'au dernier moment.
Enquête sur les attentats de Paris. Un citoyen belge d'origine marocaine qui s'était rendu en Syrie avec l'un des kamikazes vient d'être arrêté près de Casablanca, au Maroc. Le prévenu, dont le nom n'a pas été révélé, sera présenté devant la justice dès la fin de l'enquête, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur à Rabat. En Syrie, il a rejoint dans un premier temps le front Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant d'être enrôlé par le groupe État islamique qui a revendiqué les attentats du 13 novembre.
3 Américains ont été enlevés en Irak dans un appartement de Bagdad, la capitale. La police irakienne qui a annoncé cette nouvelle dit qu'elle a lancé une vaste opération pour les retrouver. Idrissa Seydoudia.
Washington n'a pas confirmé que ces Américains ont été enlevés. Nous sommes conscients des informations selon lesquelles des citoyens américains étaient portés manquants en Irak. La sécurité de nos ressortissants à l'étranger reste notre priorité numéro un. Nous travaillons avec la coopération totale des autorités irakiennes pour les retrouver, a déclaré le porte-parole du département d'État, John Kirby. Selon la police irakienne, les 3 Américains ont été enlevés par des hommes armés dans le quartier de Doura. Et un porte-parole de la sécurité irakienne a ajouté que cet enlèvement a eu lieu dans un appartement suspect du quartier. Une allusion à un lieu de prostitution, objet de raids fréquents des miliciens chiites. Des dizaines d'étrangers ont été kidnappés ces derniers mois en Irak par des terroristes et par les milices qui aident les forces gouvernementales face aux djihadistes du groupe État islamique.
Violence dans les territoires palestiniens occupés. 2 Israéliennes, une infirmière, mère de 6 enfants et une femme enceinte, ont été poignardées en 24 heures. C'est l'émotion en Israël, où l'on craint une escalade de la situation. Les violences ont fait 155 morts palestiniens et 24 Israéliens depuis le 1er octobre, selon un décompte de l'AFP.
Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est le constat de l'ONG britannique Oxfam dans un rapport publié à l'approche du Forum économique mondial de Davos en Suisse. L'an dernier, Oxfam avait prédit que les 1% posséderaient plus que le reste du monde en 2016. Cette prédiction s'est en fait réalisée dès 2015, un an plus tôt, souligne le rapport.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nicolas Pinault.
Fléau de la corruption au Nigeria, des ministres, gouverneurs d'État, chefs d'entreprise et responsables de la fonction publique et des banquiers sont accusés d'avoir volé 6,7 milliards de dollars de fonds publics en 7 ans. Selon Lai Mohamed, le ministre nigérian de l'Information, ces fonds ont été volés par tout juste 55 personnes entre 2006 et 2013. La situation est dramatique. La période concernée correspond à la fin du second mandat d'Olusegun Obasanjo, premier président élu démocratiquement après plusieurs années de dictature militaire au Nigeria. Les émissions de dette en Afrique subsaharienne ont chuté à leur plus bas niveau en 3 ans, en 2015. Selon les données de Thomson Reuters, affectés par le recul des devises et la croissance balbutiante, ils ont découragé les investisseurs. L'Afrique subsaharienne a émis 15,5 milliards de dollars de dette en 2015, soit une baisse de 22% par rapport à 2014 et le plus faible niveau enregistré depuis 2012. C'est l'Afrique du Sud, l'économie la plus avancée du continent, qui a été le plus grand pays émetteur d'obligations sur les marchés nationaux comme internationaux, avec un tiers des émissions devant la Côte d'Ivoire, 28%. Enfin, la licence 3G a été délivrée à Move Togo, le second opérateur de téléphonie mobile dans le pays, par un décret du gouvernement rendu public ce lundi. L'autorisation est accordée pour une durée de 6 ans jusqu'en 2021, par extension de la dernière licence 2G dont bénéficie Move Togo depuis le 21 décembre 2009 et sur laquelle le deuxième opérateur national derrière Togocell a bâti sa stratégie de croissance en zone rurale, notamment par la construction de 300 pylônes relais.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Nicolas Pinault.
C'est lundi, c'est plein feu sur les stades. Bagassi Koura est en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. On commence par le CHAN. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations réservée aux joueurs locaux a bien démarré ce week-end au Rwanda. Dans le groupe A, surprise des Guêpes d'Anko du Rwanda qui ont battu samedi un match d'ouverture, les éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0. Dans l'autre match de ce même groupe, le Gabon et le Maroc ont fait match nul.
Groupe B, Bagassi, RDC, Angola, Cameroun, Éthiopie, quels sont les résultats?
Eh bien, dans ce groupe B, les matchs disputés ce dimanche à Boutaré, la RDC a étrié l'Éthiopie 3-0, 1-0 pour le Cameroun face à l'Angola.
On s'attendait à avoir un beau match entre la Tunisie et la Guinée dans le groupe C.
Eh bien, malgré un doublé d'Ahmed Akeshi côté tunisien, la Tunisie a été tenue en échec par la Guinée, 2-2 avec ce doublé d'Alseni Camara côté guinéen, lundi à Kigali lors de la première journée du groupe C du CHAN.
Et pour le groupe D, il faut attendre encore.
Oui, demain mardi, le Zimbabwe affronte la Zambie et le Mali joue contre l'Ouganda. Ce qu'il faut noter, c'est que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Sur le déroulement même de la compétition, écoutons Bukingo Emmanuel. Il est vice-président et porte-parole du comité d'organisation du CHAN.
Jusque-là, on est vraiment satisfait. Tout va bien, tous les stades sont pleins de supporters, des équipes, que ce soit dans tous les stades. Le troisième groupe a joué aujourd'hui au stade de Kigali, à Nyamirambo. Et le stade était plein. Et demain, c'est le quatrième groupe qui va évoluer à Rubavu. Et je suis maintenant sur ce stade de Rubavu. Et il y a un grand engouement. Nous espérons que le stade sera plein encore demain.
C'était Bukingo Emmanuel.
Et on termine en basket.
Oui, San Antonio décroche une 11e victoire consécutive en écrasant son grand rival de Dallas, 112 à 83. Phoenix s'incline face à Minnesota, 187 à 117. Oklahoma gagne 99 à 74 face à Miami. Indianapolis perd d'un rien, 126 à 129 contre Denver. Et enfin, Chérubin, Houston s'impose face à Los Angeles, 112 à 94.
Bagassi Koura qui vous donne rendez-vous aujourd'hui dans Sporama à 19h, temps universel. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce lundi, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour, Morgane, première escale, le Tchad.
La région du Bata, au centre du pays, est assise sur de l'or. La découverte a été faite en fin d'année 2015 par les autochtones à travers des détectives. Cette richesse minérale attire bien évidemment des personnes de tous les horizons, mais trop souvent, ils exploitent l'or de manière artisanale, une activité interdite par le gouvernement. On fait le point avec André Kodmajingar, notre correspondant au Tchad.
L'exploitation de cette richesse qualifiée par les autochtones d'une manne naturelle se fait de façon artisanale et frauduleuse par des milliers d'orpailleurs venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Soucieux d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de minimiser les risques sanitaires et alimentaires, le gouvernement a interdit toute activité d'orpaillage dans cette localité jusqu'à nouvel ordre et l'évacuation sans délai des personnes se trouvant dans la zone. Les forces de l'ordre déployées sur le terrain ont dispersé les orpailleurs de manière violente. 8 députés de la région dénoncent à travers un mémorandum adressé au gouvernement les exactions perpétrées par les forces de l'ordre sur la population. Pour le député Rakis Ahmad Saleh, l'interdiction de cette activité ne se justifie pas.
Malgré l'afflux de tout ce monde, aucun comportement déviant n'a été constaté. Comme c'est une manne du ciel, la population souhaitait que chacun tente sa chance. Nous n'avons pas compris pourquoi les militaires se sont mis à chasser, brutaliser, arracher les appareils, tout ce que vous pourrez imaginez comme un comportement déviant.
Pour ces victimes que vous allez entendre, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la population, faisant des morts d'hommes.
Nous sommes des autochtones des villages Garia et Tchaga. Notre sol est pauvre et c'est Dieu qui nous a bénis avec cette richesse. À notre grande surprise, les militaires nous ont encerclés et nous tirent dessus. 4 personnes sont tuées sur place. Moi, j'habite à Ati. J'ai travaillé sur le site seulement 2 jours et les gendarmes sont venus nous intimer lors de quitter le coin. Ils ont brûlé tous nos matériels de travail et ont ramassé nos engins à 2 et à 4 roues. Dans la panique, chacun fuit de son côté.
Le député Rakis Ahmad Saleh exige que lumière soit faite sur cette situation.
Nous prenions à témoin l'opinion nationale et internationale, les associations de défense des droits de l'homme sur les conséquences de ces drames causés par les agissements démesurés des militaires qui tirent à balles réelles sur tout ce qui bouge. Doit-on systématiquement tuer, abattre les pauvres citoyens qui triment pour gagner sa vie? Nous appelons le gouvernement à clarifier cette situation et à dédommager les victimes.
Les 8 députés de la région du Bata demandent au gouvernement de réglementer le secteur en délivrant les autorisations aux demandeurs, car, disent-ils, c'est une richesse naturelle qui pourrait aider à développer la région au même titre que le pétrole. André Kodmajingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Congo-Brazzaville, les défenseurs des droits humains et les opérateurs culturels tirent la sonnette d'alarme. La culture des populations autochtones va bientôt disparaître si on y prend garde. Une loi adoptée en 2011 vise pourtant à protéger ce patrimoine, mais elle n'est toujours pas entrée en vigueur. Seules des initiatives privées permettent de perpétuer le mode de vie des autochtones congolais, à l'image du musée créé par Sorel Etta. À Brazzaville, un reportage de Nguela Ngoussou.
Nombreux estiment que si on ne faisait rien, on ne parlerait plus de ces populations qui représentent 10% des habitants du Congo. Sorel Etta, opérateur culturel et ethnologue, vient de créer un musée à Brazzaville.
Bon, en fait, c'est la volonté de promouvoir la culture aka, d'œuvrer en sa sauvegarde, parce qu'elle est en voie de disparition. Donc, c'est surtout ça, mes motivations. De faire. Nous avons, par exemple, sur les vestimentaires, on a des jupes rafia, qu'on appelle le bandoudou, on a les malamba, les jupes rafia aussi. Nous avons des luminaires, ce qu'ils utilisent pour éclairer le campement, pour éclairer la hutte. Nous avons des lianes à eau. Donc on a la natte en écorce battue qu'on appelle du coco. Bon, utilisé comme natte pour dormir, bien sûr, mais autrefois, c'était aussi utilisé pour ensevelir les morts. Donc, on a des récipients traditionnels, on a des mortiers, donc des ustensiles de cuisine de manière générale. On a des filets de chasse, des armes de chasse, l'arbalète, des différentes sagaies au Likongo. Voilà, donc il y a plein de trucs qu'on peut voir, qu'on peut découvrir en visitant le musée.
Nuit et jour, Sorel État se bat à faire connaître le conservatoire aux plus jeunes. Ce jour, les élèves de l'école Joseph Perfection de Wenze sont à la visite. Ils sont simplement émus à la fin.
Ça appartient aux Pygmées. Pour qu'on doit avoir, si par exemple, si on va à la forêt pour reconnaître un Pygmée,
on entre faire du sakasaka avec une liane, avec du sakasaka pour frotter avec les piqûres qui sont en dessous. Vous voyez que je connais maintenant comment faire ça.
En 2011, le Congo a été le premier pays d'Afrique centrale à avoir consacré une loi à la protection de la culture de ses peuples. 5 ans après, Roch Eloge Nzobo, l'un des acteurs, est tout simplement déçu.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, nous sommes déçus. Et je peux dire que la situation des autochtones ne s'est pas améliorée. Et la garantie de leur patrimoine culturel n'est pas effective.
Loin de baisser les bras, différents acteurs appellent l'État à plus de réalisme. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Toujours pour parler des populations autochtones, nous vous emmenons en Centrafrique, à Belém-Kouboké, précisément à 500 km au sud-est de Bangui. Dans ce village vivent 1500 âmes pygmées Bayaka. Parce que très souvent discriminés et exploités, ils sont menacés de disparition. Rares sont les Bayaka, qui partent loin de chez eux. C'est le cas de Cécile, 25 ans, qui est scolarisée à Berberati, à 3 heures de route de chez elle. Son petit garçon d'un an reste avec sa famille au village. Une expérience qui lui permet à la fois de prendre conscience de ses origines, mais aussi d'imaginer son avenir. Elle s'est confiée à notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso.
Tu peux prendre une personne pour débroussailler quelque endroit. Et souvent, c'est 500 francs. Mais si c'est un peuple autochtone, on le donne 250. C'est-à-dire c'est la moitié de l'argent. Et il peut prendre la personne ici pour construire une maison. Pour construire une maison, il y a du souffrance. Mais la personne va payer 1000 francs.
Là, vous faites vos études à Berberati. Est-ce que vous êtes traité différemment parce que vous êtes Bayaka?
Je peux dire oui, parce que d'autres en ville, parfois, quand je suis en train de marcher, parents disent ça, c'est un peuple autochtone. Et parfois, des autres personnes rient. Et d'autres personnes ne croient pas que je suis un peuple autochtone parce que je fréquente l'école et moi seul parmi eux. Et parfois, quand je pars, il y a des leçons qu'on donne en classe sur les origines de la forêt. Ça devient quelque chose de moquerie, mais ça me renforce aussi pour les capacités. Je supporte souvent.
Est-ce que, par exemple, ici, il y a encore des jeunes qui connaissent la forêt, ou est-ce que c'est quelque chose de perdu?
C'est en voie de disparition. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici. Parfois, ils se déplacent. Ils partent en ville, ils reviennent au village. Parfois, on peut partir en ville. Il y a des choses comme des cinémas, des films, des choses extraordinaires. Et quand on revient au village, il n'y a rien. Mais quand même, il y a des choses traditionnellement. Même si on part en ville, on revient. Toujours les grands-parents sont là pour nous soutenir.
T'as pas peur que ton fils, un jour, il connaisse pas les traditions des Bayaka?
Non. Pour le moment, il est au village. Et quand il est au village...
Là, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu au village?
3 mois que j'étais à Berberati.
Et c'est pas trop dur de laisser son enfant et de partir pendant 3 mois?
C'est difficile parce que maman est morte, ça fait environ 2 ans aujourd'hui. Et j'ai peur, mais le père, il est déjà fatigué. Il peut pas supporter les caprices d'un enfant. Ici, on a laissé les peuples autochtones, rien que les peuples autochtones pour éviter tout cela. Parce que parfois, si nous sommes mélangés, il y a des peuples d'autres ethnies qui viennent parfois laisser la grossesse et ne s'occupent pas de la femme. Et parfois, la personne maltraite la fille. Et fin de compte, il n'y a pas de mariage. C'est-à-dire abandonne la fille avec l'enfant et la personne part.
Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard quand tu auras fini à Berberati? Tu voudrais revenir ici ou tu veux rester là-bas?
On avait la radio à Bayanga. J'étais partie, j'avais le BC. C'est-à-dire on m'a formée là-bas pendant 9 mois aussi aux médias. J'étais là-bas comme animatrice et chargée des clubs. Et j'ai décidé, comme quand j'écoutais les radios, j'ai un sentiment profondément pour devenir la personne qui parle à la radio. Parce que moi, je croyais que la personne est dans la radio. C'est pour ça que la voix sonne, alors qu'il n'est pas dans la radio, rien que la voix. J'ai déjà le goût de travailler à la radio. Donc, fin de ma vie, avoir le bac, je veux qu'on me forme sur le média et un jour, je devienne journaliste.
Voilà, c'était un entretien réalisé par Tatiana Mousseau.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé dimanche que ceux qui étaient sceptiques sur l'accord nucléaire avaient tous tort. C'était lors de sa première conférence de presse après l'entrée en vigueur de l'accord du 14 juillet. Les sanctions adoptées depuis 1979 par les États-Unis, en 2006 par l'ONU et 2007 par l'Union européenne ont eu des répercussions considérables sur l'économie iranienne. L'accord sur le nucléaire iranien représente la victoire de la diplomatie sur la guerre, selon le président américain. On écoute à ce sujet le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il est un ancien directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun et actuel secrétaire général de l'université de Yaoundé 1. Il est au micro de John Linden.
Écoutez, je pense que ça indique un retour de l'Iran sur la scène internationale après 35 ans d'isolement.
Alors, qu'est-ce qui adviendrait si jamais l'Iran ne respectait pas les termes de cet accord?
Ah ben, l'accord est très très précis, c'est un accord très détaillé, il y a énormément de mécanismes qui sont prévus au cas où l'Iran n'appliquerait pas l'accord et ces mécanismes se mettront en place de façon quasiment automatique. Il n'y aura pas de décision nouvelle à prendre au Conseil de sécurité, par exemple. Donc c'est un accord détaillé qui le différencie, par exemple, beaucoup de l'accord qui, il y a quelques années, avait été signé avec la Corée du Nord.
Les sanctions contre l'Iran ont été levées. Cela implique un afflux de fonds dans le pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que demain, l'Iran devienne une puissance économique telle que la Chine ou les États-Unis?
Ça m'étonnerait beaucoup que demain, l'Iran devienne un pays comme les États-Unis ou la Chine. L'Iran a des possibilités énormes, mais le problème de l'Iran, ce ne sont pas simplement les sanctions. Il y a deux autres problèmes. Le problème premier, c'est qu'il y a eu 35 ans de mauvaise gestion de l'économie. Et donc, il faut faire des réformes économiques internes extrêmement importantes et surtout libéraliser l'économie. Et le deuxième problème, c'est que la période est très mauvaise au point de vue du prix du pétrole pour la relance de l'économie iranienne.
Et qu'est-ce que cette levée des sanctions représente justement pour les rapports entre l'Iran et ses voisins, notamment Israël?
Les Israéliens restent sur leur position, c'est-à-dire qu'ils sont contre l'accord sur le nucléaire. Il est possible qu'avec l'Arabie saoudite, l'autre pays qui s'oppose au retour de l'Iran sur la scène internationale, il y ait un modus vivendi. Le premier ministre pakistanais vient de partir en Arabie saoudite et après il ira à Téhéran. Il essaiera d'arranger ces relations qui ont été interrompues il y a quelques jours, le 3 janvier.
Alors finalement, cet accord arrange qui? La communauté internationale ou l'Iran?
Ça arrange bien sûr l'Iran. L'Iran était demandeur parce que de toute façon, l'Iran allait vers une crise économique et sociale très grave. Ça arrange aussi la communauté internationale parce que l'Iran est un pays riche, peuplé de façon importante, 80 millions et représente un marché important.
Jean-Emmanuel Pondy de l'université de Yaoundé 1. Et voilà, c'est la fin de cette édition, Morgane.
Oui, donc on avait Michel Joseph à la mise en onde. Présentation chez Robin Dorsine et Morgane Guiriec.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook où vos questions et commentaires sont bien sûr les bienvenus. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet, c'est voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.